Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Aujourd'hui, pour m'accompagner tout au long de cette émission, je reçois Myriam et Sylvie de l'association Autisme 46 afin de nous parler d'un sujet très peu connu et pourtant qui fait partie de notre quotidien, c'est le sujet de l'autisme. Bonjour mesdames.
Bonjour. Bonjour.
Alors, tout d'abord, j'ai une question. Qu'est-ce que l'autisme ?
Alors, l'autisme, si on prend la définition, on va dire, médico-juridique, en fait, c'est un trouble. Quand on parle d'autisme, on parle de trouble du spectre autistique qui se caractérise par 3 à 4 éléments, c'est-à-dire les difficultés d'interaction sociale, réciproques hein, avec les personnes, des difficultés de communication qui peuvent être verbales ou non verbales, d'ailleurs, des intérêts, ce qu'on appelle des intérêts restreints spécifiques qui peuvent être visibles ou moins visibles en fonction des personnes. Et dernièrement, ont été incorporés dans le diagnostic, enfin dans les éléments, les troubles sensoriels, puisqu'ils sont en général présents chez quasiment, voire la totalité des autistes, même quand ils ne sont pas forcément toujours visibles de premier abord.
Donc là, on est sur une généralisation du terme autistique ?
C'est ça.
En fait, l'autisme est défini en plusieurs spectres.
C'est pas qu'on a plusieurs spectres. L'autisme, c'est un grand spectre dans lequel on a tout un panel de caractéristiques. Moi, je le compare beaucoup à un jeu de cartes, en fait. L'autisme, c'est le jeu de cartes et chaque personne a des cartes en main. Et en fonction des cartes qu'il a en main, les caractéristiques qu'il va développer, qu'il va montrer ou pas d'ailleurs, hein, va dépendre des cartes qu'il a en main. À une certaine époque, parce qu'on a eu une histoire un petit peu houleuse sur l'autisme, à une époque, effectivement, on avait mis tel type d'autisme, l'autisme Asperger, les autismes atypiques, enfin, il y avait des tas de différents types d'autisme. Aujourd'hui, cette signalisation-là, elle commence à disparaître pour les troubles du spectre autistique et au sein de ces troubles du spectre autistique, en fonction, le hasard aussi hein, de chaque personne, eh bien, ce trouble va s'étendre sur un certain nombre de caractéristiques qui va déterminer si l'autiste est plus lourd ou moins lourd. C'est surtout les comorbidités qui vont faire que l'autiste va être dit, on n'aime pas trop ce terme, lourd ou moins lourd. Ce n'est pas une maladie et encore moins une maladie mentale puisque c'est un syndrome. Et ce syndrome, il est en partie génétique, même si on n'a pas d'éléments précis. Hein, au niveau génétique, ce n'est pas comme la trisomie où on sait pertinemment qu'on a un troisième chromosome. Là, c'est un ensemble d'éléments génétiques qui se transmet parce que d'une famille à l'autre, on voit bien que les caractéristiques se transmettent. Mais on a également d'autres facteurs et notamment des facteurs environnementaux. On soupçonne de plus en plus et il y a des études qui sont de plus en plus faites sur les pollutions. Sylvie aussi, tu as des choses sur...
Tout ce qui est pollution intérieure aussi, les peintures, tout ce qui va être les métaux, les pesticides. Et donc, ce sont des facteurs environnementaux qui peuvent créer effectivement des troubles autistiques. Bien sûr, ce n'est pas scientifiquement, on va dire, prouvé à 100%, mais voilà.
On a conscience qu'à partir du moment où on fait intervenir des facteurs extérieurs, le constat, la statistique reste toujours approximative.
Tout à fait.
J'ai une question d'ordre pragmatique. Vous me parliez tout à l'heure de génétique. Est-ce que l'observation du trouble autistique peut être constatée d'une base génétique intra-utérin ?
Non. On sait qu'on a une part génétique puisqu'on voit hein, dans les familles des personnes qui ont des troubles similaires et qui se transmettent au fur et à mesure et qui peuvent sauter des générations hein, d'ailleurs. C'est pas forcément systématique. Bien entendu, plus on est affublé d'un trouble important et plus on peut remarquer qu'il a tendance à se répercuter sur les générations qui suivent. Mais on n'a pas véritablement d'éléments, on va dire scientifiquement dit alléliques sur le trouble. On ne peut pas pour l'instant situer au niveau des gènes, au niveau des chromosomes, où ça se situe. On commence à avoir des études là-dessus, mais on n'a rien de précis.
Ça avance, on va dire, voilà, au niveau génétique, au niveau des généticiens. Mais il n'y a pas d'études précises.
Alors, officiellement, l'autisme est réellement reconnu comme handicap depuis 1996. Avant, comment ça se passait ?
Il y a eu des premières études de Asperger et de...
En fait, c'est vers 1940 qu'on a commencé à avoir les premières symptomatiques dites autistiques, hein, avec des diffusions de notamment deux psychiatres qu'on peut nommer, là, Léo Kanner et Hans Asperger, mais ils ne sont pas les seuls, qui avaient commencé justement à faire des études sur des enfants âgés de moins de 10-11 ans. où ils ont commencé effectivement à constater des retards de langage et des difficultés d'interaction sociale. Et à l'époque, déjà, on avait des traits similaires parentaux qu'on pouvait commencer à voir. Mais les premiers diagnostics, véritablement, vont démarrer plutôt vers les années 80, où là, on va avoir quelque chose de plus précis, mais on va avoir deux écoles qui s'affrontent, et qui s'affrontent d'ailleurs encore un peu aujourd'hui, hein, on le voit. Il y a celle qui évoque donc les raisons plutôt génétiques. À l'époque, on ne parlait pas encore de problématiques environnementales, c'est venu plus tard. Et puis une autre école sur ce qu'on appelle la psychanalyse, hein, avec des carences affectives. On sait aujourd'hui que c'est pas du tout cette base-là, et d'ailleurs la Haute Autorité de Santé, à partir de 2012, a réfuté hein, ces raisons, sauf qu'elles continuent de perdurer, ces raisons, où c'est toujours de la faute des parents, ils éduquent mal leurs enfants, ils sont froids avec leurs enfants, enfin bon, on a beaucoup de choses comme ça. On a tout et son contraire, hein, d'ailleurs. Hein. Les mamans, notamment, sont trop ou pas assez, donc les enfants, ça pose problème. Mais depuis 2012, la Haute Autorité de Santé a établi des codes de bonne pratique, en fait, avec les dernières recherches qui ont été faites, où on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout d'un problème affectif, mais d'un problème neurodéveloppemental, et avec des bonnes pratiques, et notamment au niveau de l'éducation, de manière à pouvoir développer l'autonomie de la personne, parce que ce sont des personnes qui se développent si jamais elles sont bien prises en charge. Donc, on en est là aujourd'hui, quand même, mais c'est compliqué.
On identifie aujourd'hui le syndrome de l'autisme chez l'enfant, mais également chez l'adulte. Est-ce que ce sont les mêmes symptômes déclarés ?
Les mêmes symptômes, oui, mais à savoir qu'un adulte a compensé toute sa vie.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il va compenser au niveau social. Certains adultes autistes de haut niveau vont apprendre en société, en recopiant. Ils vont pallier à leurs troubles. Alors qu'un enfant ne pallie pas encore. Donc on va plus facilement repérer un enfant autiste, alors qu'il y a beaucoup d'adultes à l'heure actuelle dits autistes Asperger, qui sont diagnostiqués à 20 ans, 40, 45 ans.
C'était jusqu'à quel âge finalement
Il n'y a pas d'âge pour le diagnostic. Le problème, c'est que plus le handicap est lourd, plus il est facile à reconnaître enfant, forcément. Mais quand la personne est de haut niveau, qu'elle parle bien, il y a des gens qui s'imaginent qu'un autiste, ça ne parle pas. La personne, elle parle bien, elle est capable de converser, elle est capable de s'adapter avec des difficultés qui ne sont pas forcément visibles, avec beaucoup de fatigabilité, entre autres. Bon, c'est une personne particulière, mais on ne détecte pas que c'est un autiste. Et puis, passé un certain âge, quand même, là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec la diffusion aussi de la communication, les gens se renseignent. Et puis, on a des adultes qui arrivaient à 30, 40, voire 50 ans, voire plus, disent « Ah bah tiens, moi, j'ai des particularités qui ressemblent à ça. » Et on sait pas, j'ai l'impression d'être autiste, du coup, quand je lis ça. Ou alors, on a des enfants qui sont autistes, qui sont reconnus. Puis, les parents commencent à se dire « Ah bah tiens, moi, j'avais les mêmes caractéristiques et je les ai toujours. » Donc, c'est comme ça qu'on les découvre, parfois.
Et comment ça se passe, en fait, la personne? Personne va consulter un spécialiste ou le médecin généraliste? Comment ça se passe?
Là, c'est plus compliqué.
Alors, ils peuvent consulter un médecin généraliste, qui peuvent les envoyer vers une plateforme de diagnostic. Ils peuvent eux-mêmes interpeller le CRA, Centre de ressources autistiques. Donc ça, c'est important, que ça soit adulte, enfant, ado. Et de là, démarrent des bilans à visée diagnostique.
On va revenir à la base du symptôme. Adulte, enfant, il y a des symptômes clichés. Des symptômes identifiables, où on va définir l'autisme, comme vous le disiez tout à l'heure, quelqu'un de taiseux, de silencieux, dans sa bulle. Là, on est vraiment sur du cliché, du Rayman. Quels pourraient être ces clichés de manière à pouvoir les déconstruire pour nos auditeurs ?
En fait, les clichés en question, c'est pas forcément des clichés, ce sont des choses qui sont réelles, mais ce n'est pas parce qu'on a une personne qui est affublée de telle ou telle caractéristique qu'ils les ont tous. Donc effectivement, le cliché, c'est véritablement la personne qui peut pas parler, qui a des mouvements un petit peu stéréotypés avec le flapping, hein, comme on disait, les balancements des mains, le balancement du corps, les enfants qui vont marcher sur la pointe des pieds. Tout ça, c'est des choses qui sont réelles et qui se voient sur certains autistes. Mais pour autant, tous les autistes ne sont pas sur ce type de caractéristiques-là. Après, on a des autistes qui parlent très bien. D'ailleurs, hein, on a des autistes qui ont une mémoire fabuleuse, aussi bien de l'imagerie visuelle, des langues, il y a des autistes qui peignent, il y a des autistes qui sont comme vous et moi, et on ne détecte pas grand-chose, si ce n'est que quand on va un petit peu plus loin, on se rend compte qu'ils ont des problèmes notamment sensoriels, ils ont du mal avec le bruit, avec la foule pour certains, mais pas tous. Il y en a d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont hyposensoriels. Ils ne vont pas détecter, par exemple, qu'ils se brûlent la main si jamais ils se mettent sur une flamme. Ou alors, ils vont être hyper tactiles, alors qu'il y en a d'autres, ils ne vont absolument pas vouloir qu'on les touche. Il faut une très grosse bulle autour d'eux. Donc, en fait, un autiste, il y a autant d'autisme que d'autistes. Et en fonction des caractéristiques, eh ben, on peut avoir toutes les caractéristiques qu'on trouve dans la population ordinaire et toutes les difficultés qu'on trouve dans la population ordinaire, en fonction de la personne et un peu du jeu de hasard qu'il a hérité.
Avec toute cette complexité, on va revenir un petit peu au rôle du parent face à un enfant autiste. Vous êtes toutes les deux mamans, en plus de faire partie de l'association CRI 46. Comment ça se passe ?
Alors, le avant-diagnostic ? On va dire que c'est compliqué, puisque on peut le détecter sur des enfants qui sont tout petits, de 0 à 3 ans. On peut passer pour des mamans qui ne sait pas éduquer l'enfant, voilà, qui a du mal dans l'éducation, qui ne sait pas dire non,
qui est excessif.
Voilà, excessif, qui peut être aussi froide. Vient ensuite le diagnostic. Donc là, c'est compliqué aussi, puisque la maman se remet aussi en question. On peut dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mangé en étant enceinte, c'est plein de petites questions que les mamans peuvent se poser. Est-ce que c'est mon éducation? Et non, c'est un trouble neurodéveloppemental, ce n'est pas l'éducation. Donc les mamans se rassurent là-dessus, ce n'est pas elles du tout, elles peuvent devenir sévères si elles veulent, ça ne changera rien, on peut dire non, ça ne changera rien. Il y a besoin d'un accompagnement spécifique. Voilà, c'est des mamans ensuite qui, certaines ne peuvent pas travailler. On est bloqué chez nous, puisqu'on a des enfants qui peuvent être très peu scolarisés, à une heure par jour d'école. Certains enfants sortent du dispositif scolaire puisqu'ils ne sont pour la scolarité pas adaptables. Et ensuite, c'est aussi financier. Ça peut être compliqué puisque certaines mamans ne peuvent pas travailler. Ils sont obligés d'assumer leurs enfants chez eux. Il faut savoir que derrière, ça engendre des frais. On a des enfants qui ne sont pas propres et qui peuvent n'être pas propres jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc on a des frais de couche, des frais de pictogramme, ce sont des petites images pour expliquer aux enfants un peu les scénarios sociaux, les aider aussi. Il y a des frais, il existe des timers, il y a de petits matériels comme on dit. Donc tout ça s'offrait un peu des parents. Et aussi le côté social, parce qu'on ne peut pas aller au restaurant, on ne part pas en vacances, on ne peut pas avoir un réseau d'amis énorme, puisqu'il y a toujours cet enfant au milieu. C'est pas un enfant qui n'est pas capable de s'adapter, c'est la gêne pour les autres. Enfin, c'est se sentir gêné quand on va à un petit dîner, quelque chose, que l'enfant ne va pas rester assis une heure. C'est pas possible. Donc il peut se lever, il peut, pour certains, flapper et pousser des petits cris, et pour d'autres, être assis puis être carrément enfermé dans leur petit coin. Mais c'est pas pour ça qu'ils ne nous entendent pas, qu'ils ne sont pas présents. Donc pour les mamans, c'est un parcours du combattant.
À savoir que dans les familles, notamment les familles monoparentales, ce sont en très 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 grande majorité les femmes qui ont la responsabilité des enfants autistes, hein, puisque souvent, c'est dommage à dire, mais les papas s'en vont, hein, ils vont refaire leur vie ailleurs, c'est plus pratique. On en a quelques-uns hein, qui sont des papas seuls avec leurs enfants, mais c'est pas la majorité. Et quand ce sont les couples, ça entraîne énormément de problèmes de couple, des problèmes familiaux, parce qu'il y a aussi l'acceptation du handicap, et là c'est pas forcément évident. On peut avoir le rejet des familles, hein, parfois, le rejet d'un des deux parents aussi. Hein. Il y en a un qui accepte, l'autre qui n'accepte pas. On a des divorces qui sont malheureusement un peu plus élevés que la norme. On peut avoir des dépressions importantes, aussi bien chez les familles et les parents, mais aussi chez la personne touchée par l'autiste. Et ça peut aller jusqu'au suicide. Donc ça, c'est des choses un peu taboues, dont on parle peu, mais qui sont malheureusement parfois certains quotidiens de parents aussi, où ils en ont marre, ils sont fatigués, et ils ne sont pas aidés derrière. Et en plus, souvent, ils sont pointés du doigt parce qu'ils sont fautifs, quoi. Il y a toujours un moment où on est fautif de quelque chose. Donc c'est vraiment très compliqué là aussi.
D'où l'importance du rôle d'une association telle que CRI 46, oui, qui va permettre de réunifier, de fédérer peut-être aussi les parents, de leur apporter des informations, peut-être des formations également.
De les rassurer aussi par rapport au handicap. Parce que la première chose, quand on apprend le handicap de son enfant, quand on apprend que son enfant est autiste, déjà, il faut le temps d'assimiler. Hein. Il faut le temps de digérer la chose et de comprendre ce que c'est que l'autiste. Parce que l'autiste, pour un parent qui ne connaît pas, c'est Redman. Hein, donc, c'est « Ouh là là, je vais avoir des tas de problèmes ». Alors, c'est vrai que ça va être compliqué à gérer, mais c'est tout un monde qui s'effondre. Il faut reconstruire une vie autour de l'autisme, on est obligé. Et là, les associations aident, d'une part, à dédramatiser un petit peu les choses et leur expliquer qu'il y a quand même des choses qui peuvent être faites, qu'un autiste, c'est pas un enfant perdu, comme on peut l'entendre aussi encore chez certains médecins et qu'on l'a entendu par le passé où on vous disait « Votre enfant, c'est bon, il est foutu, vous pouvez en faire un autre et puis oublier celui-là. Hein. » Malheureusement, je dis pas que ça se voit encore aujourd'hui, mais je pense qu'indirectement, on a un peu ça aussi qui est toujours plus ou moins présent chez certains professionnels. Et puis après, essayer par notre intermédiaire de placer les parents dans leurs droits, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Même nous, hein, en tant que personne associative, il y a des moments, il y a des choses, on est obligé de s'informer parce qu'on ne les connaît pas, nos droits. Et donc, justement, l'association, à ce sujet, on a la chance, nous, au niveau du LOT, de siéger au niveau de la CDA de la MDPH. Donc, c'est la commission de l'autonomie au niveau de la maison des personnes handicapées. Quand vous faites des demandes d'aide, que ce soit financière, humaine, professionnelle, pour pouvoir suivre les enfants et adultes touchés, les personnes handicapées tout autant qu'elles soient, on a une commission qui valide justement les propositions qui sont faites et nous faisons partie de cette commission et nous aidons justement les familles à des fois entrer dans leurs droits. C'est compliqué parce que l'autisme étant un handicap un peu invisible par moment, au niveau des MDPH comme au niveau des professionnels, comme il y a peu de formation et peu de connaissances, on a des fois des propositions qui ne sont pas adéquates avec le handicap de la personne et c'est là qu'on peut intervenir.
J'ai vu sur le site notamment que vous mettez en lien des formations pour les professionnels et peut-être aussi pour les familles. Ces formations, comment ça se passe ?
Quand l'association a la possibilité de mettre des formations à disponibilité des parents et aussi des professionnels, on a des thèmes donc différents. Ça peut être sur la sensorialité, la sexualité, l'autisme de base, puisqu'il y a des parents qui ont besoin aussi, quand on a un diagnostic d'un petit enfant de 3 ans, 4 ans ou 5 ans, hein, premier diagnostic, et comment on fait ? Comment on va faire avec notre enfant ? Comment on va communiquer avec notre enfant ? Donc, c'est des formations qui sont disponibles pour les parents. Et on invite les parents à venir se former. C'est très important, parce que c'est bien pour eux.
Et peut-être même accessible à des non-parents d'enfants autistes, mais peut-être pour des futurs accompagnants, peut-être des futures tutelles aussi.
On peut recevoir les AESH, on peut recevoir même des professionnels de santé.
Ou des thérapeutes peut-être.
Alors, mais on se rend compte quand même qu'ils ne viennent pas beaucoup, hein, les professionnels. C'est là où ça nous chagrine un peu, parce qu'on se rend compte qu'ils ne se sentent pas forcément très impliqués.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il n'y ait pas cette implication ?
Il y a d'une part le manque de temps, et puis je pense qu'il y a un manque véritablement de prise de conscience de l'importance que ça aurait pour même leur faciliter à eux, les AESH, les instituts par exemple, les gens qui travaillent au niveau du handicap, auraient tout intérêt à être formés dessus. Ça les aiderait quand même considérablement dans le suivi des personnes. Sauf que bon, il y a déjà un problème de temps, hein, parce que moi, nous, les instituts par contre, ou les AESH nous disent mais les formations, ça dure par exemple 2 jours, on peut pas se libérer 2 jours, quoi.
Peut-être donc, un appel au rectorat et à l'académie.
Oui, c'est compliqué, on leur a dit, hein, on peut peut-être passer. Et après, il y a le CRA aussi, hein, qui fait des formations tous les ans pour les familles, cette fois, pour justement leur expliquer, comme disait Sylvie, les bases qui leur permettent déjà de démarrer avec des connaissances de base, que ce soit juridique, que ce soit au niveau du handicap lui-même, hein, les différentes particularités, que ce soit au niveau administratif. Et là, par contre, c'est très intéressant pour les familles de le faire, parce que ça leur permet d'avoir déjà des contacts et d'avoir un minimum de connaissances. Parce que quand on vient d'avoir un diagnostic, on est vraiment perdu, on ne sait pas où aller, quoi faire, qu'est-ce qui va aider son enfant. Même le diagnostic, c'est compliqué. Le parcours pour le diagnostic, c'est compliqué. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ces formations-là.
Et puis, il y a toute la dimension émotionnelle pour le parent qui vient d'avoir l'information et de voir aussi de quelle manière il ou elle ou on vont pouvoir traverser cette information et ce douloureux passage du avant et du après.
Sur CAR, on n'a pas véritablement une dynamique, hein, au niveau des professionnels et des familles. On en a plus sur FIJAC, et notamment sur FIJAC, tous les mois, il y a la possibilité d'aller à un groupe de parole où là, les parents viennent s'exprimer. On peut aussi avoir des professionnels qui viennent quand ils sont invités, qu'ils acceptent de venir. où ils discutent justement de thèmes. Et là, on peut soulever des problématiques qui sont plus émotionnelles, plus de l'ordre de la famille, de ce qu'on vit au quotidien. Et là, ça peut être intéressant aussi pour les familles de venir à ces groupes.
Il est important aux familles de se sentir soutenues surtout.
C'est le but aussi de l'association, c'était aussi de pouvoir capter les familles seules, parce qu'elles sont en errance complète pour certaines.
Mais c'est de pouvoir apporter un soutien et un cadre suffisamment important. On va aller un petit peu vers l'objectif de l'inclusion sociale, car dans cette démarche de cet accompagnement de l'autisme, il y a cette base d'inclusion scolaire déjà, puis après l'évolution, l'inclusion à l'adolescence et enfin l'inclusion socio-professionnelle arrivée à l'âge adulte. Comment ça se passe dans ces différentes étapes?
Bah, Sylvie peut commencer par le scolaire parce qu'elle connaît très bien.
Donc au niveau inclusion scolaire, donc il y a plusieurs dispositifs qui existent. Donc voilà, je ne vais pas non plus trop détailler. Donc on a un UEMA, donc unité d'enseignement maternel pour enfants autistes, qui accompagne des jeunes enfants autistes âgés de 3 à 6 ans. Donc c'est un dispositif où les élèves seront présents à l'école sur le même temps que les élèves de leur classe d'âge. Et ils bénéficient d'une unité de lieu de temps d'intervention pédagogique, éducative et thérapeutique qui se recommande aux bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. On a les UEEA, donc c'est unité d'enseignement élémentaire pour enfants autistes, donc qui est un peu comme l'UEMA mais pour les enfants de 6 à 11 ans. On a le DARC, un dispositif d'autorégulation pour les élèves TSA, donc pour leur apprendre à auto-gérer leurs troubles, leurs difficultés, voilà, mais toujours dans cette intégration et inclusion scolaire. Et des classes ULIS, qui sont quand même plus connues.
L'information est beaucoup plus véhiculée.
Voilà, oui, tout à fait. Les autres dispositifs, les professionnels commencent à orienter ces enfants sur ces dispositifs. Les enfants sont souvent accompagnés d'une AESH. Donc c'est une aide humaine pour l'inclusion des enfants, pour pas faire pour eux ou à leur place, mais pour les aider dans leur inclusion. Et ensuite on a aussi les IME, instituts médico-éducatifs, où là il y a des enfants, c'est très compliqué au niveau scolarisation, où certains peuvent même souffrir d'aller à l'école, donc ils peuvent aller sur ces institutions. À savoir aussi que à l'école, si on rentre pas tous dans le même moule, malheureusement, eh bien, c'est très compliqué encore, je trouve, pour ces enfants-là d'être vraiment inclus comme il le faudrait.
Ensuite, on arrive plutôt vers l'âge adulte et les adolescents, les jeunes adultes, on va dire, qui entre 16, 18, 20 ans, là, ça commence à devenir compliqué parce que là, il n'y a presque plus rien qui existe. De toute façon, à partir du moment où on sort du scolaire, la chute est rude. Tant qu'on est dans le scolaire, comme il y a quand même des obligations qui sont faites au niveau de l'éducation nationale, il y a des choses qui sont mises en place. Sauf que quand on sort du scolaire, là, il n'y a plus rien qui est mis en place. Donc, les jeunes adultes et les adultes, commencent leur vie personnelle. C'est compliqué parce que l'habitat inclusif, pour l'instant, ce sont des projets, mais c'est pas quelque chose de généralisé. Donc, la plupart des jeunes et des adultes vivent ou dans leur famille, quand ils en ont la capacité, ou voire dans des instituts, mais qui sont pas forcément adéquates à leurs problématiques. Donc, quand on arrive à 16, 18, 20 ans, il n'y a plus grand-chose. Au niveau personnel, comme je viens de dire, il faut se débrouiller, les familles se débrouillent toutes seules. Et au niveau professionnel, il n'y a pas énormément de choses qui existent non plus, si ce n'est que on a sur le Lot, mais dans d'autres départements aussi, on a le Cap Emploi. Nous, sur le Lot, on a quand même la chance d'avoir une personne qui est formée au niveau de l'autisme et qui va essayer de faire un bilan des capacités et des difficultés de la personne pour voir si jamais on peut l'inclure dans un emploi. Ça peut être un emploi à plein temps, mais ça peut être aussi un emploi à tiers-temps ou à mi-temps en fonction des capacités de la personne et de voir s'il y a des possibilités d'aménagement. Mais ça reste quand même trop compliqué puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on a un tout petit pourcentage de personnes autistes en fait qui arrivent véritablement à garder un emploi. Parce qu'on arrive souvent à les mettre dans des entreprises et puis au bout d'un certain temps, ça pose problème, c'est compliqué et puis ça clash quoi. Et donc les personnes, il y a beaucoup d'autistes qui passent de petits emplois en petits emplois et puis qui au bout d'un moment, voire même n'ont pas d'emploi du tout parce qu'ils n'ont pas cette possibilité d'être intégrés au sein d'un milieu professionnel. Et puis les professionnels aussi, de leur côté, c'est compliqué de mettre en place des aménagements. Ça peut être coûteux, c'est pas forcément rentable. Ils n'ont pas forcément conscience de ce que peut apporter la personne personne autiste au sein de l'entreprise, hein, alors qu'on sait que bon, on prend Andros, par exemple, pour prendre cette entreprise-là, ils ont engagé des autistes qui sont en plus des autistes dits lourds, hein, c'est-à-dire des personnes qui ne parlent pas forcément, qui ont un handicap assez important, et qui trient. Il nous avait donné l'exemple du tri de la vanille, c'est à la goutte, hein, ça coûte très cher la vanille.
Donc, c'est minutieux.
C'est très minutieux, et les autistes, justement, comme ils sont pour la plupart très carrés, très minutieux, très étroits quand ils font des choses, bah, ils leur ont fait gagner de l'argent parce qu'en fait, s'il fallait mettre 10 gouttes, c'était pas 9, mais c'était pas 11 non plus. Alors qu'une personne ordinaire, bon, bah, si on a 11 ou 12, hein, c'est pas grave, ça rentre dans le truc. Donc du coup, il y a des choses qui peuvent être utilisées et qui pourraient être très pratiques pour la société dans les capacités des autistes, mais c'est pas du tout exploité. Et donc du coup, on se retrouve avec des personnes qui sont souvent sans emploi ou avec un emploi partiel, pas toujours très long ou pas pérenne, qui vivent dans leur famille parce que bah, l'habitat inclusif, ça demande des finances. Hein. Y a des familles hein, qui se mettent des fois un crédit sur le dos pour pouvoir permettre à leur enfant d'habiter chez eux, de développer leur autonomie chez eux, moyennant des aménagements. Et pour cette partie-là, on a quand même, au niveau du département, on a le SAMSA Autisme, qui aide notamment les adultes à fonctionner chez eux avec des éducateurs qui sont là pour les seconder, pour les former, leur apprendre à développer encore de l'autonomie. Et quand véritablement on a des adultes qui sont mais vraiment perdus, parce qu'on a des errances ce côté-là aussi, on a différents plateformes hein, qui peuvent les aider. Et moi, je fonctionne beaucoup avec le PCPE, qui est une plateforme de compétences. Alors, c'est un pôle de compétences de prestations externalisées. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est surtout, ça a été créé dans le cadre du zéro sans solution. Quand on a véritablement une personne qui n'arrive pas, parce que souvent, ils ont des problèmes avec l'administratif. Ils ne comprennent pas l'administratif pour beaucoup d'entre eux. Des fois, ils n'ont même pas le truc de pouvoir aller dans l'administration.
Oui, il y a le blocage, il y a ce blocage émotionnel.
Le fait de dire, je vais faire ça, voilà, il faut prendre une initiative, et les initiatives, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à les faire. Se déplacer dans un bâtiment administratif, des fois, c'est la croix et la bannière hein, pour eux, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a des odeurs, parce qu'il faut faire telle ou telle chose. Bon, mais puis eux, ils ne sont pas du tout dans ce cadre-là, puis ils ne sont pas compris, donc forcément, ils sont bousculés. Enfin, il y a énormément de choses qui font que l'administratif, c'est compliqué. Donc, bah, ils ne font pas les démarches et donc ils se retrouvent en perte de droits. Alors qu'ils pourraient avoir la possibilité d'avoir une AAH, d'avoir peut-être même une PCH ou une aide prestation de compensation qui leur permettent justement d'être aidés dans la vie courante. Et ça, c'est compliqué pour eux. Donc du coup, cette plateforme les aide justement à aller chercher les leviers d'aide. Et nous, à l'association aussi, on aide à aller chercher les leviers d'aide. On ne fait pas les choses pour eux, mais on peut quand même les aider au niveau de la MDPH, notamment à remplir les dossiers, mais aussi à aller chercher les leviers qui leur permettent de les accompagner. Ouais.
Une fois l'activité professionnelle effectuée, on va sur la phase vieillissante. Comment ça se passe ?
Ça se passe pas, hein, je pense.
Ils sont oubliés, je pense, hein, du système.
Vous savez, il y a une époque où un autiste, c'était un enfant. Mmh. Un adulte autiste, ça n'existait pas. Alors aujourd'hui, on sait que les adultes autistes existent parce que la communication, les médias font qu'on apprend les choses. Mais aujourd'hui encore, ben, un autiste vieillissant, ça n'existe pas. On n'en parle pas.
Il n'y en a pas en maison de retraite.
Ben non, parce que ce n'est pas le lieu où il faut les mettre. C'est-à-dire qu'il faudrait des maisons de retraite spécialisées à leur problématique.
On ne va pas dire qu'il n'y en a pas en maison de retraite. Parce qu'il faut penser aux adultes vieillissants qui n'ont pas été diagnostiqués.
Oui.
Et qui se retrouvent dans des instituts pour des troubles plutôt psychiatriques. Mais ce n'est pas leur place. C'est pas là qu'ils devaient être. Donc, ce sont aussi des gens vieillissants, des personnes qui sont en souffrance, mais qui n'ont pas été diagnostiquées. Ça, c'est important aussi de le dire. À l'heure actuelle, ils commencent aussi à diagnostiquer des personnes âgées dans des instituts, parce qu'ils se rendent compte que ben, cette personne-là, non, n'a pas un trouble psychiatrique, mais a plutôt un trouble cognitif. Mais à l'heure actuelle, c'est compliqué parce que il n'existe pas d'institut pour les personnes vieillissantes.
Est-ce que dans un autre territoire que la France, il y aurait peut-être pas des solutions, mais au moins des démarches effectuées qui aient pris plus d'ampleur au niveau des accompagnements, tout âge confondu ou pas ?
Oui, oui. Nous, en France, on est un peu retard sur l'accompagnement, ne serait-ce des enfants, sur l'acceptation et l'inclusion scolaire des enfants. Donc on a le Canada, l'Australie, on a des pays qui sont en avance sur nous, où les enfants, de les voir à l'école, c'est tout à fait normal qu'ils soient intégrés. L'Espagne, comme on disait, nos voisins en Espagne, l'Italie.
Israël aussi, hein, qui a plus de...
Donc oui, on a nos voisins qui incluent et qui acceptent plus facilement les enfants et les adultes aussi hein, qui travaillent autistes.
D'accord. On va essayer de recibler un petit peu la place qu'on leur accorde aujourd'hui dans la société. Est-ce qu'ils sont encore malheureusement en marge dû à certains protocoles administratifs et multiples ?
À l'heure actuelle, je dirais qu'ils n'ont pas encore leur place, puisque si on va, comme on disait, même dans l'emploi, si vous arrivez que voilà, vous dites « je suis autiste, je cherche un emploi », ça fait encore peur au patron. D'arriver aussi avec un enfant, de l'inscrire au sport, c'est quelque chose, voilà, ça, beaucoup d'enfants autistes peuvent faire du sport. Mais si vous dites le mot autiste, ce mot fait encore peur. Ce mot n'est pas encore vraiment inclus, moi je dis dans notre société, que ce soit niveau scolaire, même si on avance bien sûr, niveau emploi, niveau sport, des parents aussi pour les crèches. Parce que ça aussi, il faut penser aux tout petits, où les parents veulent continuer à travailler mais ne peuvent pas. Les inclure dans notre société, ils ne sont pas inclus complètement.
Et puis la vie sociale n'est pas faite pour le handicap en général, il n'y a pas que les autistes hein, d'ailleurs. Hein. Vous allez en supermarché, dans certains supermarchés ou magasins, vous allez avoir une musique forte et ça va être terriblement compliqué pour une personne qui a une hypersensorialité au niveau de l'audition de rester dans ce magasin pour faire les courses, de se concentrer. C'est des choses toutes bêtes, mais déjà le handicap en règle générale, moi je me souviens quand j'habitais à Reims, les dames qui étaient un peu âgées avec des petites jambes pour monter dans le bus, je dis pas qu'il fallait une échelle, mais presque quoi. Déjà le handicap en France est mal pris en charge, un peu dans tous les domaines, donc forcément sur le handicap cognitif. Étant donné que c'est mal compris, quelqu'un qui n'a pas de jambes, quelqu'un qui est aveugle, on le voit, on peut anticiper le fait que bah, quand il va traverser la route, effectivement, peut-être qu'il aura besoin d'un coup de main. Mais un autiste, ça ne se voit pas, ce n'est pas marqué sur son front. Et il y a tellement de comportements, parfois même agressifs, de la part de personnes dites ordinaires, pour peu que ça existe, hein, une personne ordinaire, et ben on ne va pas forcément faire la différence avec une personne qui est en difficulté et une personne qui va être un peu extravertie et qui, elle, va pouvoir se débrouiller. Donc, non, la société est vraiment très mal faite pour ça. Et au niveau des politiques, il n'y a rien qui est développé, alors qu'on pourrait développer énormément d'accompagnement, et ça créerait des emplois en plus, hein. Énormément d'accompagnement, ne serait-ce que sur la vie quotidienne, pour développer de l'autonomie chez soi. C'est quand même un droit de développer l'autonomie chez soi. Vous avez quasiment pas, ou peu d'autistes qui vivent chez eux de façon autonome ou semi-autonome, avec une aide bien sûr aménagée, hein, alors que c'est un droit. Voyez. Donc ne serait-ce que le quotidien, déjà, c'est compliqué pour eux. Donc dès qu'on touche effectivement le sport, l'école, les professions, ben ça reste sporadique. On a des cas hein, où on peut dire ça marche bien, mais ça reste encore trop sporadique.
On arrive déjà au terme de cette émission. Le sujet étant tellement vaste que l'on pourrait y passer beaucoup plus de temps. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait apporter aux auditeurs comme information autour de l'association, déjà où la trouver, et peut-être les complémentaires de formation ou autre.
Donc on a un site, donc Autisme CRI 46, et l'association se situe à Martel. On a ensuite des antennes Cahors-Figeac. Ce qu'on pourrait dire, c'est ne jamais considérer un enfant autiste perdu quand on arrive au diagnostic. Qu'un autiste sans déficience intellectuelle a toujours la possibilité de développer son autonomie, puis de les accepter dans notre société. Je crois que c'est surtout ce grand pas d'accepter et de pas stigmatiser l'autisme, de pas se dire il va se taper dans les murs, il hurle, enfin voilà, faut arrêter cette stigmatisation, de se former. Surtout, ça va être important, c'est que les professionnels acceptent de se former, puisque ce sont eux qui sont en première ligne avec nos enfants tout petits. Enfin, nous, en tant que parents, quand on arrive, qu'on va voir un pédiatre, et qu'on le fait suivre dès la naissance, on met tout entre leurs mains, puisqu'on y croit fort, on se dit, voilà, regardez, j'ai des difficultés, cet enfant, je comprends pas, il hurle pour manger, je le change dans la table à manger, il hurle. Et puis quand on nous regarde, mais madame, c'est vous ? Alors là, pouf, voilà, on a besoin, voilà, on a besoin de professionnels, les écoles, de formation. Et moi, je pousse vraiment tout le monde à se former. Et c'est grâce à cette formation que l'autisme va pouvoir être plus inclus dans nos sociétés.
Peut-être mettre entre parenthèses que les formations proposées par l'association sont gratuites.
Tout à fait.
Alors c'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup, parce que beaucoup de formations sont payantes et donc pas très accessibles. Quand l'association arrive à avoir des formations, on essaye de faire... Alors, je pense que l'association finance une partie, mais on essaye de faire en sorte que, oui, ce soit accessible de façon gratuite aux familles, de manière... Alors, des fois, aux professionnels, on demande une participation, mais pour les familles, on essaye de faire en sorte que... C'est la base, quoi, parce que si jamais ils sont obligés de payer leur formation, c'est pas possible. Après, il faut savoir que sur Cahors, on a le GEM Autisme. On a un GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle qui vient de se créer. Il est tout nouveau pour le département depuis décembre 2021. Il est en train de se mettre en place. C'est plutôt pour des jeunes adultes et des adultes, mais si jamais on a des personnes qui sentent qu'ils sont dans un cadre de difficultés cognitives, il ne faut pas qu'ils hésitent à passer aussi par ce GEM, parce que ça peut aussi les aider socialement à pas rester seuls et à se raccrocher à quelque chose, surtout quand ils n'ont rien. Et après, effectivement, l'association, on est là aussi pour essayer de ne pas les laisser seuls et d'essayer de reconstruire un petit début de vie, parce que certains ont complètement tout laissé tomber. Ils sont... démunis financièrement, physiquement, socialement, ça peut être terrible, donc on espère
si,
que...
Si voilà. Quelqu'un est intéressé, je vous en parle, GEM Autiste, on nous écoute, je peux donner l'adresse mail qui est gemtsa.46@gmail.com et ne pas hésiter à aller vers le GEM Autiste.
Et on va aussi rappeler l'adresse mail de l'association qui est autismecri46. Mais également l'adresse contact@autismecri46.fr pour ceux qui seraient intéressés, peut-être pour rentrer en contact soit avec d'autres personnes, pour pouvoir aussi avoir des informations complémentaires à tout ce qui vient d'être dit ici et maintenant.
À savoir que sur le site, il y a également les numéros de téléphone en fonction, comme il y a trois pôles, Figeac, Cahors et Martel, et bien ça vous permet, en fonction de votre lieu au niveau de Cahors, d'aller sur le pôle qui est le plus proche de chez vous, et il ne faut pas hésiter à téléphoner directement si vous avez les adresses sur le site.
Eh bien voilà, nous arrivons concrètement à la fin de cette émission. Je tiens véritablement à vous remercier de votre présence et de votre entièreté devant le micro pour pouvoir parler d'un sujet aussi important et de l'avoir à ce point vulgarisé, démocratisé, dédramatisé. Peut-être un mot pour la fin ?
Il y a tellement de choses à dire que...
Accepter l'autisme dans notre société. Moi, je pense que c'est...
Faire en sorte que quand on a du handicap, d'intégrer, d'être assez ouvert d'esprit...
Dédramatiser, c'est pas...
Sortir de sa zone de confort, c'est important pour les autres. Ouais. Et pour soi-même, d'ailleurs. Parce qu'on apprend beaucoup de choses quand on vit aux côtés des autistes et du handicap. On apprend énormément de choses.
En tout cas, merci pour tout. C'était Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi, en compagnie de Myriam et Sylvie de l'association Autisme CRI 46. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite.
Merci.
Merci.
L'autiste est né et indifférent des autres enfants de son école, bien qu'il ne parle pas très souvent. Ses deux yeux brillent comme des étoiles. Il est distant avec les gens. Il préfère déchiffrer les choses. On dirait qu'il compare ce monde aux épines d'une rose. Son cerveau est mystérieux, comme le vent, comme le ciel, à la fois abstrait et beau, comme un tableau de Riopel. Et malgré tous ces silences, on le découvre à chaque réveil, comme on découvre un chef-d'œuvre teinté de poussière, de soleil. L'autiste répète les mêmes phrases, les mêmes gestes d'incohérence, un peu comme nous le faisons tous, perdus face à notre existence. Certains le jugent, d'autres le blessent par leur regard, leur impatience. Mais loin derrière toute sa tristesse, il cache un cœur immense. Son cerveau est mystérieux, comme le vent, comme le ciel, à la fois abstrait et beau, comme un tableau de Riopel. Et malgré tous ses silences, on le découvre à chaque réveil, comme on découvre un chef-d'œuvre teinté de poussière, de soleil. L'autiste est né bien différent des autres enfants de son école, bien qu'il ne parle pas très souvent, ses deux yeux brillent comme des étoiles. Il est distant avec les gens, il préfère déchiffrer les choses. On dirait qu'il compare ce monde aux épines d'une rose. Son cerveau est mystérieux, comme le vent, comme le ciel, à la fois abstrait et beau, comme un tableau de Riopel. Et malgré tous ses silences, on le découvre à chaque réveil, comme on découvre un chef-d'œuvre teinté de poussière, de soleil.